Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Europe 1 et durant toute la semaine de 15h jusqu'à 16h et en direct. Et à mes côtés, ma camarade Ombline.
Bonjour.
Avez-vous passé un bon week-end, ma chère ?
Excellent week-end, merci beaucoup, bonjour à tous.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car votre vécu nous intéresse. Braver un danger, dépasser ses peurs ou des appréhensions et faire face à l'inattendu. Au cours de l'existence, chacun d'entre nous est amené à faire preuve de courage un jour ou l'autre. Mais le courage ne réside pas toujours dans une action héroïque. Être courageux, c'est faire face à l'adversité en osant porter nos valeurs et nos convictions. C'est dépasser ce qui est censé nous retenir. C'est aussi continuer à vivre et à garder la tête haute après un traumatisme. C'est de ne pas baisser les bras ou de garder son sang-froid dans une situation que l'on juge déstabilisante. Alors le courage est-il inné? Est-il forcément associé au risque? Où se niche-t-il? Le courage, qu'est-ce que c'est? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Vous continuez avec nous appeler au 3921, le standard d'Europe 1. N'hésitez pas à le composer jusqu'à 16h. Et puis vous nous écrivez bien sûr sur Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Télé, des héros dans ma salle à manger, j'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose, sans ce sou je pourrais trouver du courage, du courage, du courage.
La grande Sophie avec du courage. Quel courageux êtes-vous? Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h sur Europe 1.
Et pour parler de ce courage, nous accueillons tout d'abord Grégory. Bonjour Grégory, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier. Bonjour. Merci.
Je vous en prie. Quel âge avez-vous, Grégory, et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 36 ans et je vous appelle de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain.
D'accord. Depuis 2006, vous travaillez dans l'administration pénitentiaire, où la notion de courage est censée être propre à ce type de métier. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, alors effectivement, je travaille dans cette administration depuis 2006. Je pense qu'au sens où on l'entend assez largement, comme vous l'avez expliqué dans votre éditorial, le courage fait partie des valeurs effectivement que recouvre notre métier au quotidien. Oui, absolument.
Puisque en milieu carcéral, vous êtes amené à côtoyer une forme de violence assez poussée. Hein. Quelles sont les situations qui vous ont demandé à vous du courage?
Alors, effectivement, ça fait maintenant 13 ans que j'exerce dans cette administration. J'ai eu la chance d'être à la fois donc un personnel de terrain, surveillant pendant quelques temps, puis ensuite d'être officier, donc toujours en tenue, puis enfin des directeurs. Donc j'ai pu vraiment assister, et j'assiste encore quotidiennement à un certain nombre de situations. J'en ai vécu quelques-unes personnellement, mais je constate aussi surtout les situations que je vois autour de moi qui sont gérées par les agents de terrain. Oui. Ce que moi je relève, j'ai envie de dire, dans mes expériences, c'est surtout effectivement les confrontations face aussi, alors vous parliez de violence, mais je parle aussi de souffrance. Oui. On est face à un public effectivement qui éprouve beaucoup de difficultés sociales dans le relationnel, mais également de la souffrance personnelle, et j'ai souvent remarqué à quel point au niveau des personnels on est capable de s'impliquer. Oui. Vraiment parfois au-delà en fait de notre mission, et parfois même prendre des risques. Vous me demandiez effectivement certains exemples, je prends régulièrement l'exemple de la notion des tentatives de suicide, hein, qui sont juste une expression tout simplement de souffrance, souvent d'un appel à l'aide, et je me suis rendu compte à plusieurs reprises, y compris moi-même d'ailleurs, en tombant sur la situation d'une personne détenue qui serait en train de passer à l'acte sur une tentative de suicide. Moi j'ai déjà assisté à un agent par exemple qui avait voulu tellement sauver la vie de la personne détenue, qui s'était mis lui-même un petit peu en danger par rapport au protocole de protection sanitaire pour lui-même, pour le réanimer, et fort heureusement il a réussi. Donc effectivement ce sont des choses qui sont assez marquantes et qui démontrent que le courage est quand même présent tous les jours dans le cadre de notre métier. Oui.
Faire un travail qui demande du courage et du sang-froid, est-ce que cela vous aide dans votre vie de tous les jours à affronter des situations difficiles?
Alors complètement, effectivement le fait de travailler dans ce milieu, c'est quand même un milieu qui est assez particulier, donc à la fois en termes de recrutement, forcément on essaye de rechercher des gens qui ont un profil qui soient capables de gérer ce genre de situation. Mais la formation en fait que nous avons, que moi j'ai reçue à plusieurs reprises, nous aide aussi à faire face à des situations qui, pour entre guillemets le commun des mortels, peuvent être déstabilisantes et peuvent nous faire perdre nos moyens. Ouais. Voilà, on a des formations, j'ai envie de dire opérationnelles, des formations même qui nous accompagnent sur le plan psychologique ou émotionnel. Et puis après c'est l'expérience. Et je vous avoue effectivement que après quelques années d'expérience, forcément apprendre à garder mon sang-froid, à être confronté régulièrement à ce genre de situation que je dois gérer, que je suis tenu de gérer en tant que professionnel, ça m'aide aussi dans la vie de tous les jours lorsque je suis confronté à des situations de détresse, de violence ou de difficulté, d'avoir une réaction peut-être plus apaisée et plus facilement les bons gestes, les bonnes réactions.
Ce qui veut dire que cela soit dans la prison, hein, où vous exercez votre métier, ou dans la rue, à n'importe quel moment, vous pouvez affronter une situation et donc faire preuve de ce même courage que vous avez dans le cadre de votre métier.
Oui, enfin, je pense effectivement que ça m'a... Moi, je l'ai senti ces dernières années, à quel point mon métier avait en tout cas réussi à me faire avancer, m'avait aussi formaté dans le bon sens, hein, j'ai envie de dire, face à ce genre de situation. Et je me suis déjà retrouvé dans des situations à l'extérieur où je voyais des gens autour de moi qui, eux, n'avaient pas ce genre d'expérience. Et moi, pouvoir réagir plus facilement avec les bonnes réactions, prévenir les bonnes personnes, prendre des mesures de protection immédiate ou venir de temps en temps assister les personnes dans des situations... voilà, difficile, hein, en train de se faire agresser ou en tout cas en train de faire un malaise ou je ne sais quoi. Donc oui, effectivement, ça m'a été fort utile dans ma vie personnelle.
Et on sait combien ces fonctionnaires de la pénitentiaire sont confrontés quotidiennement à la violence, mais aussi, comme je vous remercie de l'avoir souligné, aussi à une certaine forme de misère humaine et où là, il faut aussi faire preuve de courage pour tendre la main à l'autre et essayer de l'aider à affronter l'enfermement. Mille merci, Grégory, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous allons accueillir Camille. Pour elle, être courageux, c'est savoir sortir de sa zone de confort et on en parle dans quelques instants avec elle.
Europe 1. Héros de l'ombre ou de la lumière, êtes-vous quelqu'un de courageux? Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se traduit dans votre vie? 39-21 pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous pouvez nous écrire et poser vos questions également sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Des valeurs à défendre, des proches qui comptent sur vous, connaître la peur et y aller quand même, être courageux, ce n'est pas forcément accomplir un acte héroïque. Quelle est votre histoire? Vous nous racontez au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et dans la première partie de cette émission, nous avons eu Grégory, fonctionnaire de la pénitentiaire, qui nous expliquait combien le courage était une notion qu'il fallait cultiver, entretenir, dont il faut faire preuve dans le cadre de son métier, et que ce courage, eh bien, il l'appliquait aussi dans des situations qu'il pouvait vivre à l'extérieur. En tout cas, que ce courage, on l'a entendu, l'avait rendu meilleur et un homme qui peut garder son sang-froid en toute situation. Nous allons maintenant en parler avec Camille. Bonjour Camille, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci, bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous Camille et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 41 ans et j'appelle de Cholet.
D'accord. Alors vous, Camille, vous dites que le courage, c'est avant tout oser sortir de sa zone de confort. Expliquez-moi ça.
Alors, pour vous resituer un peu mon histoire, je suis une maman solo à la base qui a élevé mes trois filles toutes seules.
Oui.
Et j'ai monté plusieurs entreprises avec plusieurs dépôts de bilan. Mmh. Mais j'y suis toujours retournée et puis j'ai réussi enfin dans mon métier. Donc j'ai osé faire des choses que je ne savais pas faire auparavant, puisque je suis sortie de ma zone de confort, j'étais dans le commerce et je suis allée vers la thérapie.
Oui.
Et donc j'ai osé faire des choses que je n'avais jamais faites et utiliser pour moi ce qu'on appelle le pouvoir du oui, c'est-à-dire de répondre oui quand on m'offrait une nouvelle opportunité, même si je ne savais pas encore comment j'allais le faire, eh bien y aller quand même. Et une fois que j'y allais, j'ai trouvé des solutions.
Et c'est cela, sortir de sa zone de confort, puisque vous avez finalement choisi de vous lancer à votre compte pour faire de l'hypnose. Changer de vie, c'est quelque chose qui demande du courage, selon vous?
Alors, pour moi, oui, puisque j'étais toute seule avec mes filles et j'avais un salaire fixe dans un magasin.
Oui.
Et j'ai tout arrêté pour me lancer à mon compte. Donc, c'était quand même un pari osé. Je n'avais pas de deuxième salaire pour pouvoir me reposer dessus. Donc voilà, j'ai osé et je savais que de toute façon, je trouverais toujours un moyen de m'en sortir.
Est-ce que dans le courage qui est le vôtre, on peut y voir aussi une forme de persévérance, une ténacité?
Alors c'est certain, sinon j'aurais arrêté au premier échec de mon entreprise. Donc j'ai recommencé quand même plusieurs fois.
Oui.
Et puis je pense que ma motivation, ça a été mes enfants. Il était hors de question que je leur offre une vie qu'à moitié parce que j'avais qu'un demi-salaire par rapport aux autres couples.
Oui.
Donc voilà, mes filles ont fait des écoles qui ont coûté cher. Et je leur ai toujours dit oui, on trouvera une solution.
Et vous l'avez trouvé. Vous associez le courage à la curiosité. Pourquoi ?
Alors pour moi, il faut avoir une curiosité pour justement aller voir ce qui se passe en dehors de notre zone de confort.
Oui.
Si je n'avais pas osé aller voir à l'extérieur, je serais encore à faire ce que je faisais il y a 10 ans.
Mmh.
Donc pour moi, ça va de pair. Il faut oser être curieux de choses qu'on n'a jamais faites, de choses nouvelles. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a du courage et qu'on découvre des capacités qu'on n'utilisait pas auparavant.
Alors, il y a quelque chose qui m'a particulièrement interpellé lorsque vous avez parlé avec l'une de nos collaboratrices avant de vous avoir en ligne, c'est que vous dites ne jamais utiliser l'expression « bon courage ». Expliquez-moi ça parce que moi, je ne cesse de souhaiter bon courage.
Alors, pour moi, dire bon courage à quelqu'un, c'est lui dire que sa journée va être difficile et que cette personne va avoir besoin de courage.
Mmh.
Donc, je préfère dire bonne journée ou amuse-toi bien ou des choses plus positives à mon sens.
D'accord. Pour vous, souhaiter bon courage à quelqu'un, donc ça revêt une forme négative.
Pour moi, oui.
D'accord.
C'est vraiment comme si ça allait forcément être dur.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, donc Camille. Et je vous remercie pour votre témoignage aujourd'hui au 39-21. Dans un instant, nous allons accueillir Cynthia Fleury. Elle est philosophe, elle est psychanalyste. Et elle a écrit un essai aux éditions Gallimard qui s'appelle « Le soin est un humanisme ».
Europe 1.
Comme Camille au 39-21, le courage pour vous, c'est repousser ses limites, se confronter aux risques. Venez nous raconter votre histoire au 39-21. Vous pouvez aussi nous écrire et réagir via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Pas forcément héros, téméraire ou tête brûlée, le courage c'est parfois simplement le fait de continuer. Quand avez-vous fait preuve de courage? Vous composez le 39-21 pour nous raconter. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Cynthia Fleury, qui est philosophe, psychanalyste et auteur de l'essai « Le soin est un humanisme » disponible aux éditions Gallimard. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour.
Bonjour. Alors, tout d'abord, pourquoi avoir mis le courage au centre de vos réflexions?
Oh, alors j'ai écrit un livre sur le courage, effectivement, en 2010, qui s'appelait « La fin du courage ».
Oui.
Ça partait d'abord d'une réflexion politique sur la nécessité de montrer que le courage est un outil essentiel de protection du sujet.
Oui.
Et également un outil de régulation dans nos sociétés. Et d'ailleurs, avec les témoignages qu'on a eus, on voit bien qu'il ne s'agissait pas d'actes héroïques,
oui,
mais qu'on renvoie plus spécifiquement, en mettant avec l'exemple à de l'ordre.
Oui.
C'est-à-dire que c'est parce que très souvent on met le courage du côté de la rébellion, de la rupture, etc. Là, quelqu'un qui fait face dans une administration à essayer de protéger les administrés, entre guillemets, ceux qui sont dans la prison, de la violence même, puis également aussi les gardiens, sans doute,
oui,
de cette violence-là. Puis il y a une endurance participe de ce qu'on appelle la décence commune. Et puis, dans le deuxième exemple, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre sur l'individu, comment cette femme, pour transformer sa vie, est allée chercher au fond d'elle des ressources. Et précisément, alors vous l'avez dit, c'est connexe à de la persévérance, à de la ténacité, mais la force matricielle de toutes ces valeurs, c'est le courage.
D'accord. Permettez-moi, est-ce que vous avez un endroit où vous pouvez vous rapprocher d'une fenêtre? Parce que parfois, votre téléphone décroche un peu et quelques mots nous échappent. Merci beaucoup. L'acte courageux est-il forcément un acte exceptionnel, qu'on peut qualifier d'exceptionnel?
Parce que là, par exemple, vous m'entendez mieux?
Ah, je vous entends parfaitement.
Bon, ben là, je suis près d'une fenêtre. Donc, vous très m'aviez bien dit sur...
L'acte courageux est-il forcément un acte que l'on doit qualifier d'exceptionnel?
C'est un acte pas nécessairement exceptionnel, dans le sens où il peut être ordinaire, de la vie quotidienne.
Oui.
Mais en revanche, si vous voulez, il nécessite un effort qui est conséquent.
Mmh.
Et donc, cet effort fait qu'il faut aller chercher quelque chose, il y a quelque chose dans ses limites qu'il faut aller attraper, et ça, c'est de l'ordre de l'exceptionnel.
Est-ce que l'on peut dire que, par exemple, lorsqu'on franchit des étapes, qu'on franchit ces étapes, on se dépasse, et que finalement, le courage peut se trouver dans quelques petites actions que l'on fait chaque jour?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a comme ça une conquête. Vous savez, il y a cette image qu'on connaît bien avec Camus de Sisyphe.
Oui.
Il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire d'un effort perpétuel, renouvelé. Donc, il n'est pas nécessairement exceptionnel dans le sens où il est répétitif parfois.
Oui.
Mais justement, affronter la répétition et ne pas se décourager devant la répétition, comme son nom l'indique, ça nécessite du courage.
Vous dites que le courage implique nécessairement la peur. Pourquoi ? Expliquez-moi.
Parce que si vous voulez, si vous n'avez pas peur, vous êtes dans une inconscience, vous êtes dans quelque chose qui s'appelle la passion, vous êtes dans quelque chose qui s'appelle l'insouciance, ce qu'on appelle aussi l'hubris en littérature, c'est-à-dire la démesure.
Oui.
Et ça, ce n'est pas du courage. Vous n'avez tout simplement pas conscience des choses. Et à ce moment-là, on ne peut pas vous qualifier de courageux. Vous êtes inconscient.
Voilà,
vous êtes un inconscient. Il faut toujours avoir la conscience de la limite, il faut toujours avoir peur d'une certaine manière, mais en revanche, on considère que la peur n'aura plus un mot.
D'accord. Le courage est-il inné ? À l'inverse, peut-on le cultiver si on ne l'a pas trop développé jusqu'à maintenant ?
Non, le courage n'est pas inné. Alors après, bien sûr, il y a des tempéraments, mais bien évidemment que nos cultures, nos éducations, nos valeurs, les médias, etc., toute la vie qui nous entoure nous permet de cultiver. Et d'ailleurs, vous avez vu aussi que dans le premier...
Ah, je vous ai perdu. On va rappeler Cynthia Fleury, qui est psychanalyste, philosophe, et qui est l'auteur d'un essai qui s'appelle « Le soin est un humanisme ». Ah, je crois vous avoir entendu. Non, on vous a perdu. On va la retrouver tout de suite. Excusez-moi, madame, on vous avait perdu. Le courage, en fait, quel est son contraire ? Est-ce que la lâcheté est le contraire du courage ?
Oui, la lâcheté est le contraire du courage, de fait. Après, la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas éternellement lâches. Donc, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien.
Et donc, il y a toujours une possibilité d'être, à un moment donné, courageux.
Oui.
Donc, mais en aucun cas, la peur est l'envers du courage. Au contraire, on l'a vu, c'est une nécessité.
Comment pourrait-on définir le découragement et comment l'éviter, ce découragement ?
Ah, c'est compliqué. Le découragement, c'est quand...
Allô ?
Non ?
Oui, mais je vous entends très bien, là, ça y est.
Ah, mais parce que j'entends derrière quelqu'un qui dit qu'il faut la rappeler sur un fixe. Pardonnez-moi, je suis un peu... Donc, vous me disiez comment on évite le découragement. Le découragement, on l'évite sans doute en se préservant de ne pas systématiquement renoncer à ses valeurs pour accomplir un geste.
D'accord.
Et donc, très souvent, on a soi-même capitulé, renoncé pour des très bonnes raisons, hein, parce qu'il faut gagner sa vie, parce qu'on se dit que bon, on ne va pas mener tous les combats, c'est très juste, mais en même temps, il faut faire attention de bien mener certains combats pour ne pas perdre une confiance dans nos capacités.
Alors, nous avions Camille, juste avant vous, qui disait que souhaiter bon courage à quelqu'un ne le faisait jamais parce que cela avait une connotation négative. Moi, elle m'a un peu fait culpabiliser parce que tous les matins, moi, je le dis à plein de monde, bon courage. Qu'en pensez-vous ?
C'est une formule très française. Il y a j'en pense pas grand-chose. C'est généralement une banalisation pour certains. Bon courage, c'est bonne journée. Ayez de la capacité, ayez de la force en vous-même. J'avoue que très sincèrement, bonne journée, bon courage reste quand même une très jolie façon d'entamer la journée.
Ouais, et une bonne intention. Cynthia Fleury, je rappelle que vous êtes psychanalyste et philosophe et auteur de l'essai « Le soin est un humanisme » aux éditions Gallimard. Vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous allons accueillir Audrey. En 2016, son fils Marin s'est montré très courageux en s'interposant lors d'une agression à laquelle il assistait. Et on va voir combien cela lui a coûté.
Europe 1.
Qu'est-ce que le courage pour vous aujourd'hui ? Venez partager votre expérience au 39-21. Vous nous envoyez vos messages, vos commentaires sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Oser se dépasser, se surpasser, ça veut dire quoi pour vous être courageux ? Vous nous racontez, Olivier Delacroix vous écoute au 39-21, 50 centimes la minute.
Et nous accueillons maintenant Audrey au 39-21. Bonjour Audrey, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci.
Bonjour, je vous en prie. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Audrey ?
J'ai 41 ans et j'appelle de Lyon.
D'accord. Alors, en novembre 2016, alors qu'il s'apprêtait à fêter son anniversaire, la vie de votre fils Marin a totalement basculé. Racontez-moi dans quelles conditions cela s'est-il passé.
Tout à fait. Marin venait d'avoir 20 ans. Il oui. attendait avec sa petite amie à un arrêt de bus pour se préparer pour aller fêter son anniversaire avec ses amis lorsqu'il a vu à côté de lui un couple qui se faisait agresser parce qu'ils s'embrassaient dans la rue. Oui. Marin a essayé de s'interposer, ce qui n'a absolument pas plu à son agresseur qui a essayé de se battre contre lui. Marin l'a mis à terre, ce qui l'a rendu foudrage. Et puis le bus arrivant, Marin est monté dedans. Oui. C'est à ce moment-là que son agresseur est arrivé dans son dos, armé d'une béquille, et lui a saigné plusieurs coups sur le crâne.
D'accord. Marin a été donc très sévèrement blessé. Son pronostic vital a été même engagé pendant plusieurs semaines. Il a donc fallu que vous aussi, vous fassiez preuve de courage pour accompagner votre fils dans cette épreuve. Expliquez-moi ce que signifiait être courageuse pour vous à ce moment-là.
Être courageux, c'est énormément de choses. C'était affronter les pronostics des médecins qui étaient extrêmement pessimistes. On nous avait dit que Marin ne survivrait certainement pas et s'il survivait, c'était à l'état végétatif. C'était essayer de garder la tête froide pour essayer de prendre les bonnes décisions pour Marin et également tenter de mener le reste de la famille, mais je ne suis pas uniquement maman de Marin, mais de deux petites filles également, et tenter de m'occuper d'elles au mieux.
Mmh. On peut penser à l'agresseur qui, lui, a fait preuve d'une lâcheté certaine en frappant Martin dans le dos, comme ça. Voilà, c'est quand même quelque chose qui me sidère, vu la violence que vous évoquez, parce que pour mettre quelqu'un dans cet état, il faut frapper fort avec une béquille. Est-ce que le courage, c'est faire fi d'une situation qui peut être dangereuse pour aider, pour venir en aide? Est-ce que c'est comme une pulsion qui se déclenche en quelque sorte devant une situation comme ça, qui était incontournable pour une mère?
Je pense que le courage, c'est dépasser sa peur.
Oui.
Sa peur de ce qui peut se passer, en se disant « Non, il y a quelque chose qui se passe qui est grave devant moi et je refuse de laisser faire sans réagir. » Donc le courage n'est pas forcément de s'interposer, mais d'utiliser d'autres moyens tels qu'appeler les secours ou autre chose. Mm-hmm. L'attitude de Marin était très courageuse.
Oui, elle a été très courageuse, mais elle lui a coûté très cher en même temps. Oui. Avant que votre quotidien bascule, est-ce que vous soupçonniez le courage et la force dont vous avez fait preuve, et puis aussi celui de Marin, parce que s'interposer lors d'une agression, on évoque souvent des femmes agressées dans le bus, par exemple, devant un parterre de personnes qui ne bougent pas. Là, lui a bougé, ça lui a coûté cher. Mais revenons sur votre courage à vous. On dit souvent faire preuve de courage comme ça, ça peut coûter cher. Vous, vous soupçonniez que vous aviez autant de courage et de force?
Non, moi je ne soupçonnais pas la force et l'énergie que j'ai pu déployer. Jamais j'aurais imaginé être en capacité de mettre autant de choses en œuvre pour essayer de sauver Marin et ensuite l'aider à récupérer au maximum ses capacités.
Comment va Marin aujourd'hui? Et est-ce que vous avez réussi à échanger justement sur cette notion de courage avec lui?
On en parle très régulièrement parce que lui estime pas que ce qu'il a fait était particulièrement courageux. C'était juste que c'était son devoir. On voit des gens se faire agresser. Il refusait de laisser faire comme ça. Marin continue à faire preuve de beaucoup de courage parce qu'il est maintenant en rééducation depuis 2 ans et demi.
Oui.
Et il est loin d'en avoir fini. Donc sa vie, la vie d'un garçon d'une vingtaine d'années a totalement été mise en parenthèse pour travailler tous les jours pour récupérer un peu d'autonomie.
Je sais qu'on dit souvent à Marin, tu es un héros. Qu'en pense-t-il? Et vous, qu'en pensez-vous?
Il a beaucoup de mal, lui, avec cette notion.
Ouais.
Il a certainement été courageux, mais pour lui, un héros, c'est un bel drame, par exemple.
Ouais.
Et lui s'est interposé, il n'aurait jamais imaginé que ça tourne de la sorte.
Oui, bien évidemment. Oui. Vous avez fondé une association, La Tête Haute, Je Soutiens Marin. Garder la tête haute et ne pas fermer les yeux, c'est une invitation à agir avec courage face à des injustices, comme l'a fait Marin ce jour-là?
Oui, parce qu'on me demande souvent, finalement, si Marin a bien fait ce jour-là d'intervenir. Et j'ai envie de me dire, pourquoi est-ce qu'on pose cette question à Marin et pas à son agresseur? Enfin, d'où on remet en cause le geste de quelqu'un qui a fait le bien C'est ça qui devrait être la norme, et pas l'inverse.
Est-ce que on parlait tout à l'heure avec Cynthia Fleury du contraire du courage et de ce qu'est la lâcheté. Est-ce que l'agresseur de Marin a fait preuve, a continué de faire preuve de sa lâcheté? Je pense que il a été jugé. Est-ce que comment vous avez jugé cet homme, son attitude?
C'est une question difficile. Déjà, le fait que ce soit quelqu'un de lâche, enfin, c'est indubitable. On arrive dans le doute, quelqu'un, on ne lui laisse pas une chance. Et quand Marin est tombé dans le coma, dès le premier coup, il a continué de cogner.
D'accord.
Donc, oui, c'était assez... Je dirais, au-delà de la lâcheté, il a un vrai détachement et une réelle désinvolture par rapport aux actes qu'il a posés, aux actes extrêmement graves qu'il a posés. On n'était pas très loin de la qualification de tentative d'homicide.
Oui, et puis on peut rajouter qu'il a fait preuve d'une bêtise incroyablement profonde. Merci Audrey pour votre appel et votre témoignage. Je précise que vous êtes l'auteur de La tête haute, récemment paru aux éditions Flammarion. C'est un livre dans lequel vous revenez longuement sur l'histoire de votre fils Marin. Dans un instant, vous ne manquerez pas de l'embrasser pour nous d'ailleurs, dans un instant nous allons accueillir Maud. Elle manage une équipe de 35 personnes et doit parfois, on va le voir, faire preuve de courage face à eux dans le managériat justement.
Europe 1. Quelle est votre définition du courage? Dans quelles circonstances de la vie vous vous êtes senti courageux? Venez nous expliquer, nous raconter votre quotidien. Vous échangez avec Olivier Delacroix au 39-21.
Plus comme avant.
Se sentir courageux les jours plus difficiles, chante Renan Luce. Quand avez-vous fait preuve de courage? Êtes-vous un héros du quotidien? Venez échanger avec nous le 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous accueillons Maud sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Maud, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Maud?
42 ans, je vous appelle de Niort.
D'accord. Alors vous dites qu'un certain nombre d'actes managériaux impliquent de se dépasser, hein, de dépasser ce qu'on est en tant qu'individu. Quel type d'acte justement dans le managériat, par exemple? Donnez-moi quelques exemples.
Il y a plusieurs types de décisions où on doit se dépasser, puisque parfois nous sommes amenés à relayer des décisions qui viennent de dirigeants. Donc pas forcément des décisions pleinement assumées dans le circuit de décision. Donc il faut par contre être suffisamment loyal pour les assumer devant les équipes. Et puis il y a de toute façon tout un tas de décisions qui ne rendent pas le manager populaire. Donc nous devons faire preuve d'une forme de courage, puisque bon, le manager n'est pas un héros. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans le fait d'assumer ses décisions qui fait que il faut pouvoir faire face.
On est souvent confronté à des décisions pas faciles, c'est clair, puisque on juge, hein, on décide pour les autres. Et cette notion, je pense au juge, hein, celui qui passe son temps à juger les autres et décider d'une peine, il faut une certaine dose de courage aussi pour décider du destin de l'autre à un moment. Et c'est ce qui est sûrement le plus difficile pour vous, non?
Alors, sans aller jusqu'à l'implication que peut avoir un juge, mais effectivement, on évalue au quotidien des collaborateurs, donc on peut décider leur orientation professionnelle d'une certaine manière. On peut être amené aussi à les mettre face à des difficultés.
Oui.
Donc, ça n'est pas forcément toujours simple d'assumer ça, de dire à quelqu'un qui ne remplit pas des objectifs, qui n'a pas accompli ses missions.
Est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça s'améliore?
Oui.
Oui,
ça s'améliore avec le temps, ça, en général. Hein, c'est pas forcément simple quand on débute, mais bien sûr, l'expérience aide, l'échange aussi. Entre collègues, c'est quelque chose d'important pour un manager.
Vous dites... Allez-y, finissez.
Je dis que c'est aussi du courage collectif. On est rarement seul dans une entreprise. Donc les échanges entre managers sont très importants.
On parlait justement de poser des actes tout à l'heure, de franchir des étapes et finalement de retrouver le courage dans certaines petites décisions du quotidien. Vous êtes d'accord avec cette notion-là?
Oui, je pense. Parce que le quotidien d'un manager, en tout cas celui que moi je connais, c'est plein de petites choses qu'on va mettre en place au fur et à mesure. C'est aussi parfois des échecs de niveau plus ou moins important. Mais ça aussi, qu'on assume et à partir desquelles on apprend et qui nous font évoluer et progresser.
Ouais, je faisais allusion, vous voyez, quand je dis des petites choses, hein, mais voilà, c'est changer un horaire, décaler un horaire d'un quart d'heure, et on sait que ça ne va pas plaire à tout le monde. Voilà, il faut aussi avoir du courage quand on est manager de pouvoir bouger, hein, voilà, 30, 40, voire une centaine de salariés, changer les habitudes et voilà, endosser cette responsabilité. Vous dites que vous êtes une personne assez empathique. Vous avez l'impression d'aller à l'encontre de votre personnalité parfois ?
Disons que j'ai certainement appris au travers de mon travail à gérer cette empathie et cette émotion, à la transformer plus en assertivité qu'à recevoir pleinement parfois la difficulté de l'autre sans arriver à la gérer ou à y mettre une limite. Mmh.
Est-ce que vous pensez que le courage individuel qui est le vôtre entraîne le courage collectif ?
J'ai l'impression que ce serait un peu prétentieux.
Non, pas du tout. Non, parce qu'on dit souvent que le courage déclenche celui de l'autre à côté. Vous voyez, je pense que, voilà, on évoquait avec la maman de Marin tout à l'heure, voilà, cette agression durant laquelle il a fait preuve de courage et ça lui a coûté très cher. Mais je pense que dans ce type de situation, souvent, il suffit d'une personne qui s'avance, qui fait preuve de courage pour que d'autres, tout de suite, eh bien, lui enclenche le pas. En cela, j'entends qu'un manager, s'il fait preuve de courage, eh bien, peut-être déclenche le courage collectif de son équipe.
Oui, et comme je vous le disais, il y a aussi l'aspect manager avec qui on travaille au quotidien. Mm-hmm. Certainement un effet d'entraînement qui peut s'opérer. Et d'ailleurs, même sur des aspects, je pense aux aspects plus d'actualité, et par exemple à France Télécom,
oui.
Peut-être que un des plus grands actes dans lesquels le manager pourrait faire preuve de courage, c'est peut-être une forme de droiture éthique et aussi savoir dire non à certaines pratiques.
Oui. Oui,
c'est
complètement.
Pas toujours simple. On parle effectivement du rapport à l'équipe où là il faut savoir dire non sur certains aspects, mais c'est pas ma situation personnelle, mais on peut être amené à avoir des rapports avec sa direction qui peuvent être compliqués, qui peuvent nous imposer des choix éthiques auxquels on
n'adhère pas.
On ne serait pas. Et là effectivement, il faut certainement avoir le courage de dire non, et peut-être que un disant non, les autres peuvent suivre.
Mmh. Maude, vous restez avec nous en ligne. On va continuer à parler de ce courage, du courage en règle générale et du courage managérial avec vous. On sera aussi avec Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, auteur de l'essai Le soin est un humanisme aux éditions Gallimard. On va continuer à parler du courage dans quelques instants.
Daniel, 56 ans, témoigne au 39-21. Je me suis montré courageux, alors comme on peut l'entendre à la télé, par un acte héroïque. J'ai sauvé l'été dernier un petit garçon qui était en train de se noyer. Ça a été plus une pulsion qu'un acte réfléchi. Se jeter à l'eau m'a paru naturel à ce moment-là.
Europe 1.
Quand le courage, c'est aussi supporter avec bravoure les épreuves de la vie, se lancer des défis, se surpasser. Quel courageux êtes-vous ou avez-vous été ? On vous écoute au 39-21. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, le courage ? Vous retrouvez Olivier Delacroix.
Et nous écoutions Maude qui parlait du courage managérial dans la partie 5 de cette émission. Et justement, je me tourne vers vous, Cynthia Fleury. Savoir faire preuve d'autorité, dire les choses, est-ce forcément faire preuve de courage ? Et notamment dans ce que nous disait Maude, dans le cadre managérial.
Alors le cadre managérial, je vais y aller dans un deuxième point, mais très souvent, oui. Très souvent, c'est ce qu'on appelle en philosophie la parésia, le oui. Dire vrai, le courage de dire la vérité. Alors avec tout un immense débat sur qu'est-ce que c'est que la vérité, bien oui. Sûr. Mais c'est-à-dire cette tentative à un moment donné de dire ce que l'on croit être juste, pour faire quelque chose. Bon. Après, dans le contexte managérial, si vous voulez, voilà, il est important de voir ce qui a été dit aussi à la fin. C'est-à-dire que normalement, le manager, il n'est pas le sous-fifre d'un top management. Il est un personnage de médiation
oui.
Qui est à la fois en face des employés, de ceux qui sont, de ceux qu'il manage, justement, et puis d'une direction. Donc, si le manager ne fait que suivre des principes qu'il considère et qu'il qu'il désavoue, de fait, non, il ne montre pas de courage précisément. Donc c'est pour ça que c'est toujours très contextuel le courage. C'est très compliqué de dire si quelqu'un a été courageux ou pas. Il faut toujours interroger la situation dans laquelle il se trouve.
Et lorsque je demandais à Maud tout à l'heure si elle pensait que son courage individuel pouvait entraîner le courage collectif, elle semblait gênée de répondre à ça. Elle disait que c'était un peu prétentieux de ma part. Mais à votre avis, est-ce que le courage d'un manager stimule une équipe et peut déclencher aussi le courage au travail ?
Ça arrive très souvent. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de mimésis obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que moi, je vais être courageux que l'autre va l'être. Non. Oui. Mais en même temps, on peut vérifier quasiment dans toutes les situations qu'il y a une émulation, qu'il y a une confiance qui gagne les uns et les autres, qu'il y a une fabrique comme ça, collective de l'exemplarité, qu'à plusieurs, c'est plus simple. C'est comme ça que fonctionnent les grands corps, la gendarmerie, l'armée, etc. Oui. Donc être dans une culture de courage commune, oui, ça permet d'entrer soi-même dans un mouvement.
Mmh. Vous évoquez la gendarmerie, l'armée, ça m'a d'un seul coup traversé la tête. J'ai repensé au printemps arabe, où en Syrie, en Tunisie, en Libye, c'était parti d'une personne et ensuite, ce qui avait ouvert la voie à d'autres. Est-ce que le courage a cette vertu d'être au départ individuel pour qu'ensuite il devienne collectif ?
Il est nécessairement individuel parce que, si vous voulez, le courage, c'est quelque chose qui vient de soi seul.
Ouais.
Même si ceux qui sont courageux n'ont pas le sentiment éventuellement que c'est une décision, ça reste une décision. Alors, c'est une décision qui a la vitesse de la lumière. C'est pour ça que très souvent, certains de vos auditeurs disent « Mais non, ça s'est imposé à moi, quoi. Voilà, je l'ai fait, c'était naturel. » Mais c'est tout sauf naturel. C'est une décision qui a été longuement par la vie, par l'éthique, par les valeurs construites. Et elle se produit comme un réflexe.
Mmh.
Bon, mais elle est d'abord en soi, parce que sinon ça serait de l'ordre de la domination si je forçais l'autre à être courageux. Vous voyez, donc il faut nécessairement que ça vienne d'abord en nous.
Oui.
Et à ce moment-là, ben oui, parfois ça a une fonction d'inspiration et encore une fois d'entraînement.
Est-ce que les suiveurs alors sont moins courageux que ceux qui leur ont ouvert la voie ?
Non, pas nécessairement. Puis en plus, on se permettrait pas de dire et de noter comme ça qui est plus courageux ou pas. Il est évident, si vous voulez, que dans chaque moment, construire cette chaîne de l'action, construire cette chaîne de la responsabilité, bah, ça a son importance. Alors c'est vrai, c'est plus simple. Hein, l'histoire l'a souvent montré. Hein, ceux qui ont commencé la résistance et puis les derniers arrivés dans la boucle, oui, de fait, il y a une grande différence entre les premiers et ceux qui arrivent en tout dernier. Mais les premiers suiveurs, très sincèrement, très souvent, ils sont considérablement courageux aussi.
Cynthia Fleury, je rappelle que vous êtes philosophe, psychanalyste et que vous êtes auteur de l'essai « Le soin est un humanisme » qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Et je vous remercie pour vos éclairages cet après-midi durant notre émission. Merci aussi à Maud, à Grégory, à Camille, à Audrey de nous avoir raconté leur histoire, d'avoir témoigné de ce courage cet après-midi. Alors, on l'a vu, le courage est une source que chacun peut trouver en lui. Il se trouve dans chaque action qui implique de se dépasser, d'entreprendre quelque chose de difficile, que ce soit insignifiant ou même héroïque aux yeux des autres. Parfois, c'est un événement qui fera surgir un courage que l'on ne se connaissait pas. Parfois, c'est l'injustice qui entraîne l'acte courageux. Le courage peut être individuel et devenir collectif, on l'a vu. Parfois, le courage de l'un entraîne le courage des autres. Cette vertu n'est pas l'apanage des héros. Elle appartient à tous et à tout âge. On peut continuer à échanger sur les réseaux sociaux.
Et nous raconter vos histoires, femmes, hommes, courageuses, courageux. N'hésitez pas sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1 et Instagram. Olivier Delacroix, officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des grossesses multiples. Avoir des jumeaux, des triplés ou plus, c'est un bonheur amplifié, mais aussi de grands bouleversements, à l'image même d'un tsunami qui arrive dans la maison. Alors si vous êtes les parents ou les grands-parents de jumeaux triplés ou plus, si votre couple a vécu des turbulences après la naissance de vos jumeaux ou de vos triplés, eh bien vous pouvez nous appeler au 3921 et vous pourrez nous parler de votre histoire. J'ai été ravi de passer cette heure en votre compagnie, à vous tous et vous, ma chère Ambline.
Merci,
et puis bien évidemment, on se retrouve demain à partir de 15h.